Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée. Suivons d'abord son ossature. Rencontre hier à Kinshasa entre Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint, chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU, et la première ministre Judith Suminwa. Au menu, les défis financiers et ceux liés à la mobilité dans la partie sous contrôle de la rébellion qui ne permettent pas d'apporter assistance aux déplacés. L'étudiante Jeanne d'Arc Lombo Edina, finaliste du département d'informatique et technologie à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani, met en place un appareil automatique de lavage et séchage des mains. Le dispositif mis en place est constitué d'une structure en bois équipée de capteurs de mouvement. L'appareil active automatiquement l'écoulement de l'eau une fois les mains détectées à environ 30 cm. En Ituri, des milliers d'enfants déplacés restent encore loin des bancs de l'école alors que les violences armées continuent de frapper plusieurs localités. Alors, que faire pour éviter que cette crise ne s'aggrave? Pour en parler, nous recevons dans ce journal Michel Meta, responsable de l'UNADI, Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Encore une fois, bonjour à tous. À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Les défis que rencontre la mission onusienne en RDC ont été évoqués au cours de la rencontre ce jeudi entre la première ministre Judith Suminwa et le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix. Ce sont notamment les défis financiers et ceux liés à la mobilité dans la partie sous contrôle de la rébellion qui ne permettent pas d'apporter assistance aux déplacés. On écoute Jean-Pierre Lacroix dans cet extrait sélectionné par Jean-Gandou Kabongo.
Les efforts humanitaires doivent être financés à hauteur des besoins. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et vous avez vu les conséquences dramatiques de la baisse des ressources. Deuxièmement, les parties doivent être poussées à respecter les engagements. Et dans les zones où nous avons des restrictions, nos collègues humanitaires et la MONUSCO ont des restrictions de liberté de mouvement, d'accès aux populations en besoin, tout doit être fait. Tous les acteurs, le Conseil de sécurité doivent se mobiliser pour que nous puissions avoir cette liberté de mouvement et ces ressources nécessaires pour porter assistance à ces milliers de déplacés, parce que c'est une situation intolérable. La conclusion que je tire en tout cas de cette réunion, c'est que nous avons d'abord reçu l'expression d'un soutien continu de la part de Madame la Première Ministre, de son gouvernement, de soutien à la coopération avec les Nations Unies, soutien à la MONUSCO, soutien à notre travail commun. Je crois que c'est très important parce que nous sommes en RDC. Notre interlocuteur de tous les jours, notre interlocuteur de référence, ce sont les autorités congolaises. Et donc ce climat de confiance, ce travail conjoint est plus que jamais fondamental pour faire avancer les efforts de paix et aboutir à des résultats concrets.
Après avoir rencontré la Première ministre et le président de la République, le secrétaire général adjoint des Nations Unies a échangé avec plusieurs leaders de l'opposition. Les discussions ont porté sur la recherche de la paix, en particulier dans l'est du pays, et sur l'éventualité d'un dialogue national inclusif. Jude Mister Bilanda.
C'est sa deuxième visite en 6 mois en République démocratique du Congo. Dans la matinée du jeudi 4 septembre, les hauts responsables onusiens ont rencontré au siège de la MONUSCO plusieurs figures de l'opposition, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, ainsi que des représentants des partis de Moïse Katumbi, Matata Ponyo et d'Eli Sesanga. Ces échanges ont porté principalement sur le projet d'un dialogue national inclusif. Jean-Marc Kabound a souligné que ces dialogues devraient inclure les Congolais en exil, tandis que les camps Fayoulou a exhorté les Nations Unies à appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui exige les retraits du M23 dans les zones qu'il occupe et la fin du soutien rwandais à ses groupes armés. Martin Fayoulou a également plaidé pour que le prochain mandat de la MONUSCO évolue d'un simple mandat de maintien de la paix à un mandat robuste afin de rétablir la sécurité dans l'est du pays.
Une finaliste du département d'informatique et technologie à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani met en place un appareil automatique de lavage et séchage des mains. Elle l'a présenté hier au public à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025. Une cérémonie présidée par le gouverneur ad intérim Roger Ekongo Demba en présence de plusieurs invités dont le nouveau recteur de l'université de Kisangani et président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la Tchopo, le professeur Mathieu Kirongozi. Jacques Moukonkole nous présente la structure de ces dispositifs et son mode de fonctionnement.
Cet appareil de lavage et séchage de mains est une œuvre de l'étudiante Jeanne d'Arc Lombo Edina. Elle est lauréate du département d'informatique technologie du système PADEM à l'ISP Kisangani au cours de cette année académique qui vient de s'achever. Le dispositif mis en place est constitué d'une structure en bois équipée des capteurs de mouvement. L'appareil active automatiquement l'écoulement de l'eau une fois les mains détectées à environ 30 cm, ce qui permet l'évitement de tout contact avec des parois potentiellement contaminées. Les gouverneurs des provinces par intérim, le professeur Roger Ekongo, le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi Bometa, ainsi que le directeur général de l'ISP Kisangani, le professeur Jacques Riffrin Lofemba, ont procédé tour à tour à l'expérimentation de ce dispositif, lequel est susceptible de limiter les risques de contamination selon la lauréate. Signalons par ailleurs que l'ISP Kisangani est la première institution de l'ESU à pouvoir procéder à la double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2024-2025 dans la province de la Tchopo. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu où des milliers de déplacés internes de la ville de Goma se trouvant à Beni lancent un cri de détresse et enfouissent la guerre du M23 à Goma. Ils déclarent aujourd'hui être abandonnés sans assistance humanitaire depuis leur arrivée fin janvier dernier. Parmi eux, des familles de Rutshuru, Nirangongo et Masisi déjà déplacées. Selon le comité institué, ils sont plus de 1260 ménages qui vivent dans des familles d'accueil dépourvues de tout. Pour survivre, ils effectuent des travaux ménagers et certains se livrent à la mendicité. Ils lancent ces cris de détresse au gouvernement congolais et aux humanitaires. Théo Moussekoura, leur représentant, est joint au téléphone.
Depuis que nous sommes arrivés ici comme déplacés, nous n'avons reçu aucune assistance des ONG nationales ou internationales, moins encore une aide du gouvernement provincial. Nous ne savons quoi faire. Ni les PAM, ni les ACR, personne n'a rien fait. Certains enfants n'étudient pas. Et ceux qui sont allés à l'école, ils n'ont rien reçu comme fourniture scolaire et ils sont chassés par manque d'objets classiques. Nous demandons à notre gouvernement, notamment au ministre de l'Éducation, de suivre la situation des enfants déplacés ici à Beni. En bref, nous demandons toute assistance alors que nous sommes encore ici. Nous plaidons auprès de la communauté internationale et au président de la République de résoudre ces problèmes afin de nous permettre de rentrer chez nous et poursuivre nos activités.
Contacté, le conseiller du gouverneur en charge des questions humanitaires déclare que le gouvernement provincial est actuellement dans l'impossibilité de répondre à 100% aux besoins des déplacés compte tenu des moyens à sa disposition. Noquez-vous toujours, le réseau pour les droits de l'homme REDO dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Dans un communiqué publié le 4 septembre 2025, cette organisation affirme qu'en l'espace de 2 mois, 68 personnes ont perdu la vie à la suite de l'insécurité. Son coordonnateur, Muindo Wasiviniwa, appelle les autorités à protéger la population civile. Il explique au téléphone à Martial Papimukeba.
Pour les mois de juillet et août 2025, plus de 68 personnes tuées, 49 à territoire de Lubero, plus particulièrement dans le secteur de Bapir, 11 à territoire de Beni et 8 à ville de Butembo. Vu la criminalité très élevée dans cette entité, Les rédos appellent les responsables des services de sécurité et de défense au Grand Nord Kivu, sitôt les commandants phares de ces Sokola E, les commandants PNC, chefs DGM, chefs ANR, de bien faire leur travail en sécurisant et protégeant la paisible population contre cette criminalité, mais aussi aux instances judiciaires de la zone, de diligenter les enquêtes sérieuses pour que les auteurs soient dénichés et jugés. À la population de collaborer avec les services de sécurité à dénoncer tout cas suspect.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des responsables des forces de défense et de sécurité dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Dans la ville de Matadi au Congo central, le bourgmestre de la commune de Matadi demande aux vendeurs qui sont les longs de la route nationale numéro 1, plus précisément en Voidou, d'intégrer les marchés pour leur sécurité. Cet appel intervient au lendemain d'un accident survenu à l'entrée de la ville de Matadi à la hauteur du pont Pozo et qui a causé la mort de 3 personnes. Nana Pluriche Mambo pour plus de précisions.
Cet accident s'est produit à 17h hier jeudi au pont Pozo à l'entrée de la ville de Matadi. Un camion remorque a, à la suite d'une défaillance des freins, percuté les vendeurs et autres motocyclistes qui étaient en stationnement le long de la chaussée. Les bilans fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Le bourgmestre de la commune de Matadi attribue ces drames aux vendeurs qui refusent d'intégrer les marchés qui pourtant comptent plusieurs étalages vides. Patrick Yamesso.
Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé un peu d'aménager l'intérieur des marchés en Voidou. Et puis, un petit nouveau marché privé-public derrière le marché en Voidou, contenant plus ou moins 300 tables. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons pu utiliser que 20%. Les 80% est vide. Les commerçants ne veulent pas utiliser les marchés. Ils préfèrent rester au long de la route nationale numéro 1. Nous avons même descendu 2 fois avec M. le maire et le commissariat ville de Matadi. Sensibiliser, déloger, saisir même leur petit commerce. Des jours après, ils sont retournés. Il y a un danger qui guette et je peur qu'un jour que nous puissions subir des conséquences plus que ce que nous venons de vivre aujourd'hui.
Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Disposer des outils consensuels pour la collecte des informations standardisées, c'est l'objectif d'un atelier organisé jeudi à Bounia, en Ituri, à l'intention des différentes parties prenantes qui œuvrent dans le désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Présent à cette formation, le coordonnateur national du PDDRS en mission depuis lundi en province. Le point avec Martial Kiza Biamongo.
Des acteurs intervenant dans les opérations de désarmement et de mobilisation ont passé en revue toute la documentation et outils opérationnels pour enfin avoir des outils consensuels qui seront utilisés de manière standard. Selon le coordonnateur national de PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Tangatinta, l'objectif est de garantir la traçabilité des armes qui seront collectées et traitées dans le cadre des opérations sur le terrain. Il encourage la dynamique actuelle enregistrée en province de l'Ituri avec la vague des réductions des éléments de certains groupes armés locaux, notamment Zaïre, Tchiniakilima et Mapi. Notons que cet atelier se base sur les expériences acquises au cours des opérations précédentes de désarmement et démobilisation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, la nouvelle société civile congolaise annonce une suspension partielle de son appel en un mouvement de grève dès ce vendredi. Cette grève déclenchée depuis 3 jours à Uvira pour protester contre la désignation du général Olivier Gassita en qualité de commandant en charge des opérations et du renseignement au Sud Kivu. Cette structure citoyenne justifie sa décision par la nécessité de permettre aux habitants de s'approvisionner en produits de première nécessité en attendant l'issue de la réunion prévue ce jour entre les Wazalendo, les forces vives locales et une délégation gouvernementale venue de Kinshasa. Ronelyne Tibonera.
Le coordinateur provincial de ces structures, Mafikiri Mashimango, explique que ces décisions tiennent compte de la dure réalité que vivent les habitants. Depuis mardi, marchés et boutiques sont fermés. Selon nos sources, les opérateurs économiques craignent d'ouvrir leurs commerces, redoutant des actes de pillage. Malgré la volonté affichée par la société civile, les activités n'ont pas encore repris sur le terrain. Un habitant jaune ce matin décrit une ville toujours sous le choc et envahie par la peur.
En tout cas, cette situation ne doit pas persister. Nous disons non, 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 nous, en tant qu'habitants et habitantes d'Ouvira, surtout nous les femmes, nous pleurons beaucoup. Nos enfants n'étudient plus depuis le mardi. Il y a nos activités qui Chom. On ne se déplace plus pour aller dans d'autres zones pour exercer nos activités commerciales. En tout cas, cela nous met dans une confusion totale. Que les autorités prennent une solution valable à ces problèmes qui guettent la ville d'Uvira actuellement.
Jeudi, le maire d'Uvira a déploré dans un communiqué les manifestations et a entraîné une paralysie totale des activités dans la ville. Il a assuré aux protestataires que leur colère était entendue et comprise. Ces mouvements de grève perturbent également les activités au port de Kalundu. Ces points stratégiques pour le trafic lacustre entre Uvira, Kalemie et certains pays voisins de la RDC est actuellement sous le contrôle de Wazalendo selon plusieurs sources locales.
Sport avant d'aller plus loin, éliminatoire Coupe du Monde 2026, la RDC se produit ce vendredi sous le coup de 13h à Djouba au Soudan. Les Léopards qui ont leur destin en main négocient un virage important pour la consolidation de leurs chances dans cette phase retour de ces éliminatoires.
Actualité internationale.
Dans un communiqué publié ce jeudi 4 septembre, Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, demande aux autorités de Bamako de prendre des mesures concrètes et immédiates pour abroger les lois problématiques récemment adopté dans les pays. Au Sahel, une opération de désinformation cible actuellement la France. L'armée française qui a quitté le Mali en août 2022 est accusée à tort d'armer les terroristes dans le nord du pays. Ce narratif mensonger, bien connu dans la région, est réapparu cette semaine avec une vidéo sortie de son contexte.
L'invité.
En Ituri, des milliers d'enfants déplacés restent encore loin des bancs de l'école alors que les violences armées continuent de frapper plusieurs localités. À cette urgence s'ajoute l'arrivée de plus de 21 000 réfugiés sud-soudanais dans les territoires d'Arou, aggravant une situation humanitaire déjà critique. Alors que faire pour éviter que cette crise ne s'aggrave? Pour en parler, nous recevons dans ce journal Michel Meta, responsable de l'UNADI, Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Il répond aux questions de Jean-Claude Lokidile.
Michel Meta, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes.
Quelle est aujourd'hui l'ampleur de la crise humanitaire en Ituri, notamment en ce qui concerne les enfants déplacés qui n'ont pas repris le chemin de l'école?
Oui, c'est une très grande inquiétude pour notre population de l'Ituri, parce que à Télé, à Iga Barrière, en Centrale, à Lopa, à Nisi, la population a fait un déplacement massif pour leur sécurité, plus vers la ville de Bounia. Et avec les enfants, et avec les femmes, les personnes de troisième âge, mais particulièrement les enfants pour la rentrée scolaire, ça pose déjà un problème. Et ça vient s'ajouter sur plusieurs problèmes qui rongeaient déjà le territoire de Djougou, où il y a plus de 64 sites de déplacés où les enfants presque n'étudiaient pas. Alors, cet événement a ajouté les problèmes dans les problèmes. Ce qui veut dire que maintenant la situation est préoccupante pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et aussi même la prise en charge de ces enfants et de ces familles qui sont déplacées de Djougou vers la ville de Bounia, qui viennent saturer les cas de déplacés, ça nécessite réellement une intervention. Et pas seulement pour une intervention à terme de nourriture, mais une intervention à terme de prise en charge de ces enfants qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo. Le laisser dans la rue, c'est aussi un problème pour notre société et pour notre province de l'Ituri. Nous osons croire que le gouvernement prendra vraiment des mesures nécessaires à ce moment ici, et mesures idoines pour que ces enfants soient récupérés à ce moment, pour que les enfants commencent leur vie normale et leur vie de quotidien.
Vous tirez la sonnette d'alarme sur le sort de milliers d'enfants. Concrètement, quelles sont les situations les plus urgentes que vous observez sur le terrain?
Il faut voir aussi les cas de déplacés dans les territoires de territoires du Rumu, particulièrement dans la chefferie de Banya de Tchabi, où il y a eu beaucoup de déplacés, plus dans le chef-lieu de la chefferie, à cause de la menace des ADF Nalu. Et c'est, voilà, toutes ces familles jetées dans la rue, et les enfants aussi jetés dans la rue. Nous ne savons même pas comment ces enfants vont reprendre le chemin de l'école. Mais aussi dans les territoires de Arou, il y a eu plus de 21 000 réfugiés sud-soudanais qui ont fui les violences dans leur pays en Ituri et qui ne sont pas tellement pris en charge. C'est une question qui pèse sur la population. Alors ça a déjà des conséquences sur le vécu quotidien de la population de la chefferie de Kakwa et de la chefferie de Kaliko.
Entre les violences armées et l'arrivée des réfugiés sud-soudanais, quel message adressez-vous au gouvernement et aux partenaires humanitaires?
Nous pensons que le gouvernement, surtout à travers le ministère des Affaires sociales et humanitaires, devrait faire un effort de faire un déplacement dans la province de l'Ituri, parce que nous connaissons le mandat passé et n'a même pas fait les déplacements en Ituri. Je pense que mon message, que je pense à travers votre micro, va toucher la ministre de l'Action humanitaire, la première ministre et le chef de l'État, pour que la question de déplacer dans la province de l'Ituri et des réfugiés soit réellement prise en charge, et particulièrement la question des enfants déplacés. Pas parce qu'ils ont la volonté de se déplacer, parce que les conditions ne sont même pas réunies pour qu'ils régalent leur milieu naturel. En tout cas, il y a urgence que les autorités provinciales, même au niveau national, prennent cette question au grand sérieux.
Michel Meta, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier sincèrement, messieurs les journalistes.
Ce journal vous a été présenté par Blaise Shindani Kambala. Alain Goy l'a mis en onde. Il a bénéficié de la coordination éditoriale de Jean Gandou Kabongo. Merci pour la confiance à votre radio. L'actualité continue sur Radio Kapi et sur toutes nos plateformes digitales. Portez-vous bien et à très bientôt.